On va finir en beauté avec Madame Latifa Sari qui nous vient d'Alger. Et alors, on a beaucoup insisté sur la présence marocaine lors de cette réunion, mais enfin, nous sommes quand même deux natifs d'Algérie, et donc l'Algérie est quand même représentée. Merci.
Je profite pour remercier le professeur Hublin pour l'invitation, ainsi que Madame Véronique Gudin, ainsi que toutes les personnes qui ont veillé au bon déroulement de cette belle rencontre scientifique. Donc, je vais rester dans le contexte chronologique de mon collègue et ami Abdeljalid Bouzougar, mais nous allons dévier un peu vers l'Est, vers l'Algérie, pour vous parler des technocomplexes microlithiques du Pléistocène final en Algérie. Pourquoi microlithique ? Tant que je ne vais pas tarder sur ça, c'est par, contrairement au macrolithisme qui aurait au MSA prôné sur les industries et les technocomplexes MSA, à savoir moustérien et atérien, et comme je ne sais pas si c'était un phénomène abrupt, l'apparition de ces lamelles-là, de ces microlithes-là qui vont être emmanchés, on le verra, c'est fait pratiquement apparaître pratiquement globalement dans tous les continents, les anciens continents, à savoir l'Asie, l'Afrique et disons surtout le continent africain. On a un LSA, bon, il y a le problème de atérien moustérien qui se pose pour les collègues travaillant dans ces contextes. Également pour nous, allons-nous garder épipaléolithique ou épipaléolithique et bien sûr paléolithique supérieur pour ce qui est ibéro-maurisien, mésolithique ou épipale pour le capsien, ce n'est pas l'objet de notre intervention, mais je dirais que j'adhère plutôt à la taxonomie des collègues anglo-saxons travaillant en collaboration avec les collègues marocains sur les sites bien chronostratigraphiés du Maroc pour parler de LSA, pour dire early LSA, tous les technocomplexes microlithiques qui seraient apparus à la fin du Pléistocène supérieur, final. Voilà, final ou fin Pléistocène supérieur, voire 20 000 ans, 15 000 ans, et là, ça va jusqu'à 11 000. Donc, durant le pléniglaciaire jusqu'au tardiglaciaire, et c'est un phénomène qui aurait touché. Donc, il est un peu plus ancien, c'est-à-dire, alors, ces microlithes-là que vous voyez, c'est des lamelles à bourre abattue qui auraient servi comme support, bien sûr, emmanché par une sorte de résine sur des hampes ou des manches en bois végétal ou bois animal. Malheureusement, mis à part des milieux en tourbe comme en Allemagne, on a très peu ou pas du tout d'indices de manches dans des contextes ibéro-maurisiens ou carrément, même capsiens. On voit ça, on a l'exception de la faucille de Kouloum-Natam, mais ça date de la période capsienne. Donc, pour revenir au phénomène qui serait apparu à la fin du Pléistocène final, on a en Afrique du Sud des industries type Roberg, en Afrique de l'Est un LSA un peu plus ancien, mais qui serait un peu différent, comme Clément Ménard, Alice Le Plongeon travaillent sur ces contextes-là. Et en Afrique du Nord, on a bien sûr cet ibéro-maurisien, un nom gardé par défaut, mais qui représenterait ces industries microlithiques apparues entre 25 000 et 12 000 KLBP et qui auraient pour point commun un outillage allégé pour des besoins cynégénétiques et pour des besoins de travail de boucherie, qu'on le verra plus tard. Ce qu'il faudra retenir, que dans ce cul-de-sac qu'on appelle industrie burmoisienne à lamelles, on a plusieurs technocomplexes en Europe, vraisemblablement 5, entre appelés, on a le solutréen, le badégounia, magdalénia et asinia. Et bon, comme les collègues italiens ont, je dirais pas inventé, mais ont préféré séparer un autre bloc de complexes complexes microlithiques apparus à cette phase-là du Pléistocène final, l'appeler épigravessien. Donc, si on compare chronologiquement parlant, l'ibéro-maurisien est une industrie apparue en Afrique du Nord entre 25 000 et 12 000 ans, à peu près un peu plus tard, 19 000 KLBP, c'est-à-dire 17 000 BP, est apparu l'Eastern Iranian, Au Levant, on a des industries microlithiques appelées IRLI. Merci. Merci beaucoup. Je sèche vite. Épigravétien, excusez-moi, appelé l'épipaléolithique du Levant. Toutes ces industries se sont apparues à peu près à des moments différents, mais juste à la fin du dernier maximum glaciaire. Et il y a des convergences très frappantes, ça rejoint le discours des généticiens, entre ces industries emmanchées, trouvées au Proche-Orient, et celles trouvées aussi au Maroc. Il y a à l'occasion une session qui s'est faite en juin à l'USPP passé qui parlait de ce sujet-là, des convergences technologiques des différentes parties. Alors, n'en déplaise, c'est-à-dire aux préhistoriens qui travaillent sur la préhistoire de l'Europe, il y a zéro pourcentage de rapport génétique entre l'Europe, c'est-à-dire l'épigravétien, et l'ibéro-maurisien. Mais il ne faudra pas oublier que, enfin, je pense qu'il faudra retenir que les éléments, les informations obtenues se sont basées, enfin, s'apparentent à des restes humains qui auraient été découverts à partir de 15 000 BP, alors qu'en est-il pour les restes qui sont antérieurs à cette phase-là, c'est-à-dire de l'ibéro-maurisien ancien. Bien sûr, très peu de squelettes de restes humains sont rapportés à cette phase, ce qui voudrait dire qu'on n'aura pas la réponse de sitôt. Donc l'industrie ibéro-maurisienne, excusez-moi, juste un petit détail, j'ai oublié, désolé pour les collègues tunisiens, on a les industries à lamelles du sud tunisien, ce petit point-là, sont aussi caractérisés par la présence de lamelles à bord abattu et de l'industrie qu'on verra dans cette diapo-là. Donc on a un fond commun constitué de grattoirs, par exemple, de burins, et là, j'en vois pas de burins, désolé, il y a des lamelles. C'est-à-dire, pour résumer, c'est des chasseurs-cueilleurs qui ont taillé généralement des rognons de silex pour fabriquer des outils. Ces outils-là vont certains servir à couper, à gratter la peau, et c'est ce qu'on a mis dans le paquet de lamelles, de paquets d'outils à fond domestique, et d'autres, comme les lamelles à bord abattu. Certaines vont servir comme couteau et d'autres comme élément de chasse pour des activités cynégétiques. Le point commun de ces industries est la présence de la technique du coup de microburin, c'est-à-dire à partir d'un moment où généralement s'apparente après 15 000 kbp, on voit l'apparition de certaines lamelles, comme les lamelles scalènes, bon, ça dépend des sites, mais elles ont quand même des formes géométriques obtenues après avoir fracturé ou par coup de pression obtenu une facette comme ça qui va être retouchée plus tard et devenir soit une pointe lamellaire, soit une armature très caractéristique de cette période-là. Il y a eu aussi de l'industrie osseuse, elle n'est pas très développée, on a surtout des tranchées, des poinçons et quelques lissoirs. Dépendant de la localité, c'est des sites généralement qui ont été découverts dans des abris sous roches et des grottes littorales, mais on a des sites à l'intérieur et d'autres dans des franges beaucoup plus intérieures, dans les hauts plateaux ou dans le Sahara. Ou dans l'Atlas saharien, donc aux marges septentrionales du Sahara, où on a des rondelles d'enfilage, surtout faites sur des coquilles, sur des têtes d'autruche. Je passerai sur l'information. Tout à l'heure, mon collègue Jalil l'a présenté. Donc le représentant, c'est l'homme de Mujtaha Fallou. Et ici, on a une représentation réussie, rapportée selon les informations du professeur Hajous. Donc, pour revenir au sujet de la présentation, l'Algérie, donc, en référence aux résultats des carottes océaniques faites un peu partout dans la Méditerranée et aussi dans la mer d'Alboran, on peut reconstituer certaines, c'est-à-dire profils et séquençages des carottes océaniques en rapport avec les événements paléoclimatiques. Si on transpose les dates calibrées des sites ibéro-maurisiens et en faisant abstraction de certaines aberrations, là on voit un écart-type assez important, parce que les dates ont été faites à des moments différents, Les échantillons ont été pris à des analysés dans des laboratoires différents, et les dates ont été obtenues sur des échantillons de nature différente. Et la question que je me posais, justement, on a des séquences très anciennes qui sont conservées par le site de Tamarat, qui commencent à la fin du dernier, des stades. Enfin, il y a des corrélations entre les phases stadiaires et interstadiaires, donc H2, dernier maximum glaciaire, et le H1. Donc, on a une alternance de épisode froid et sec, épisode humide, mais encore froid, avant, bien sûr, la première amélioration climatique, disons, post-glaciaire de Boréal. Et donc, les sites transposés ici appartiennent à différents sites ibéro-mauriciens, et les dates s'échelonnent sur plusieurs, c'est-à-dire correspondent à plusieurs événements climatiques. Et la question que l'on se posait, que je me suis posée, est-ce que dans cette culture-là, où il n'y avait que les lamelles à bord abattues comme dénominateur commun de toute cette culture, y aurait-il pas une variété qui serait cachée derrière cette monotonie d'industrie. Donc, on a trois cas d'études qui pourraient répondre ou contribuer à la réponse, à trouver la réponse. Ces sites-là, ils sont trois, ils ont été choisis par rapport à différents critères. C'est la diversité, c'est-à-dire du site. On a deux sites qui se placeraient dans un contexte mixte de montagnes et de plaines côtières. Et le troisième site se placerait dans les hauts plateaux, loin de 200 km de la mer. On a des dates qui ont été obtenues par les fouilles précédentes, et ce qui pourrait contribuer à la réponse de la variabilité diachronique des sites ibéro-mauriciens. Le premier site donc, se trouve à la côte de Bjaïa, mon collègue Jalil a fait allusion tout à l'heure à l'importance de ce site-là par rapport au fait qu'il propose la plus ancienne séquence connue de l'ibéro-mauricien. Plus ancienne, tout dépend des méthodes de fouilles. Peut-être qu'en améliorant, en affinant les datations à Tavouralt, on tomberait, on réduirait carrément cette hiatus. Mais quand même, une marge de presque 2000 ans sépare les deux sites. Pardon. C'est un site qui a été fouillé par plusieurs fouilleurs. D'abord, il y a un rambou qui s'amène, il met une tranchée tout au long de l'axe longitudinal de l'abri. Ensuite, Claude Brahimi creuse un petit sondage ici en 67. Et Saxon, intéressé par la problématique, comme il est, pas archéozoologue à l'époque, mais intéressé par les variations paléoécologiques des mammifères en Israël, il voulait trouver un corollaire au Maghreb. Et au lieu de fouiller Afalou, qui était déjà fouillé par Arambou, il a préféré fouiller Tamarhat pour la richesse. Bon, c'est vrai qu'Afalou proposait aussi une plus grande richesse en reste faunique, mais il a choisi Tamarhat pour essayer de trouver, reconstituer justement l'évolution interne de cette culture-là. Enfin, lui était intéressé initialement par les mammifères. Mais travaillant avec Angela Close et avec d'autres, selon une approche intégrée et avec des méthodes de fouilles modernes, il a pu quand même, sur la petite superficie qu'il avait fouillée, développer une séquence stratigraphique constituée de de six unités stratigraphiques qu'il a appelées zones. Et il a fait abstraction au niveau supérieur fouillé par Bahimi de l'ordre de trois unités stratigraphiques parce que c'était... un sédiment mélangé avec la fouille précédente de Brahimi. Le matériel a été repris par, une partie du matériel conservé au musée de Londres, si je ne me trompe pas, a été réanalysé, réinvesti pour obtenir de nouvelles datations absolues. Et donc, ces résultats n'ont fait que renforcer, si ce n'est, c'était renforcé justement, l'idée que Tamarhat conserver la plus ancienne séquence de l'ibéro-mauricien, c'est-à-dire de 20600 en temple sur 21240. Il faudra juste retenir que les plus anciennes séquences occupation, les zones 6 et 5, représentent les plus anciennes occupations de ce site-là. Et les zones 4, 3, 2 et 1 représentent les occupations supérieures. Et ce qu'il a appelé le funnel break est une variation stratigraphique, mais il y a aussi plusieurs paramètres qui l'ont poussé à situer la différence entre les occupations anciennes et supérieures à ce niveau-là, qui correspond à la fin du dernier maximum glaciaire, mais aussi à l'introduction massive des restes malacologiques halieutiques qui n'étaient pas aussi importants ou n'étaient pas aussi intensément exploités dans les niveaux inférieurs. Et donc, les unités stratigraphiques 6 et 5 de Tamarat, qui sont ici, commencent à partir d'un épisode aride et froid et se prolongent tout au long du dernier maximum glaciaire, où on a la prolifération des unités supérieures connaissent donc qu'on a au niveau des variations paléoclimatiques des occupations qui auraient qui se seraient succédées et auraient connu ce shift climatique, c'est-à-dire de la phase aride et froide à la phase humide, toujours froide mais humide, ce qui expliquerait les rapports avec ces Ibéro-Maurusiens, avec les ressources halieutiques lors d'une première amélioration, enfin même si elle est encore sèche. Les plus anciennes occupations 5 et 6 donc renvoient à celle, à la date dont mes collègues tout à l'heure parlaient, de l'apparition des haplotypes, donc U16 et M1, qui sont les représentants autochtones de l'Afrique du Nord, et ce qui pourrait aussi dire qu'on a un Ibéro-Maurusien à Tamarat, et que ce site-là pourrait être l'épicentre à partir duquel serait propagé l'Ibéro-Maurusien vers l'est et vers l'ouest. Mais il est encore tôt de parler de ça, puisqu'on n'a pas les dates dont je réponds à ta question, Jelly, tout à l'heure. Donc, ce qui est connu, c'est que par effet de subsidence, les sites Ibéro-Maurusiens littoraux de la Tunisie ne sont pas connus. Donc, si on tombe sur des sites avec des dates plus anciennes, je pense qu'on va changer encore de scénario. Donc, on va aller très vite. Là, pour l'économie de subsistance, ces Ibéro-Maurusiens anciens, et durant les 4000 ans d'occupation, voire 5 avec les dates de Barton et de Joshua Hogg, on a une exploitation massive d'un gibier, qu'on appelle le mouflon à manchette. Et il a fait l'objet d'une chasse sélective. Donc on a une chasse orientée vers le gibier de moyenne taille. Ma collègue Merzoum Souhila a mis en évidence la présence d'une stratégie de dépeçage, de pousserie, bien caractéristique de ces Ibéro-Maurusiens. La consommation, c'est-à-dire l'apport en quartier au site du gibier, et des traces de découpe sont bien apparentes sur les restes osseux de cet animal-là et sur d'autres animaux. Effectivement, ils mangeaient un peu tout. Le petit, le grand gibier, le petit, n'était pas du tout que très rarement abordé, chassé, pardon, ou consommé. Donc on a des traces, des bright spots sur des couteaux et des lamelles à dos. Au fait, c'est des lames. Là, on a le cas d'une lame à crête antérieure qui porterait même des traces de manches qui auraient été utilisées comme couteau pour la boucherie. Et d'autres lamelles plus petites qui, elles aussi, portent des traces de boucherie et de travail. Et c'est à partir des occupations supérieures que apparaissent une exploitation des ressources halieutiques. Et donc, à quoi correspondent justement ces variations paléo-économiques au niveau de l'industrie lithique? C'est ce qu'on va voir. Rapidement, c'est de l'industrie lithique, donc basée sur des lamelles et sur un matériel de voyage. On a des éléments de parure perforés, l'industrie osseuse, un fragment de corne en terre cuite à Tamarat, mais qui, selon Saxon, comme disait Balou, l'Irlandais ne fait pas le printemps. C'était juste ça qui était conservé à Tamahat. Mais non loin de cette date-là, parce qu'on est à 2600 comme MBP, on a quand même l'article, c'est-à-dire publié par Felstein, sur les figurines en Croatie, où on a quand même un contexte épigravétien, on a un rebondissement quand même d'une culture épigravétienne à partir de ce site-là. Donc il y avait des activités spécialisées intensifiées à la fin du dernier maximum glaciaire, où on assiste à une apparition de certains supports d'éclat qui ont été utilisés comme outils pour rainurer le bois de serre, parce qu'on n'avait pas le renne. Mais on a expérimentalement reconstruit justement la manière de travail, diversifié les matières aussi, et exploité à des temps variés justement la trace d'usure et l'intensité de l'usure pour confirmer que c'était effectivement des becs qui ressemblent étrangement aux microtraces des becs Borer et Zinken qui sont connus dans le contexte magdalénien du paléolithique supérieur en Europe. Et donc, pour dire que curieusement, alors qu'on a des informations sur la génétique qui paraissent conforter l'image d'une ascendance, c'est-à-dire nanufié à partir de l'Iberomousia, à partir de 15 000 ans, là, on a au paléolithique supérieur à la phase ancienne de l'Iberomousia, antérieure à l'amélioration de 15 000 KBP, c'est-à-dire du Bonin à l'Hérode, des manifestations qui rappelleraient celles qui se passent en Europe. Le deuxième site se trouve en zone littorale, comme le premier, comme à Tamahat, également au milieu en contexte mixte, fouillé par Claude Brahimi, qui avait, lors d'une fouille de sauvetage, trouvé un niveau ibéro-mauritien très abondant. La faune et la flore ont été respectivement examinées par Yves Coppens et Boscher. Malheureusement, le matériel n'a pas été repris dans une perspective d'analyse archéozoologique, mais on sait que le taxon le plus chassé des animaux, c'est le mouflon à manchette, que le cèdre, Cedrus atlantica, Arenaria, les Chenopodiaceae sont très présents dans ce niveau-là, au sein du Iberomousien, qui correspondrait, après calibration, à l'événement, enfin, grosso modo, à l'événement Hainich 1, c'est-à-dire c'est un stade glaciaire quand même assez froid et aride. Mais la présence de parures et faites sur coquillages marines voudrait peut-être signifier que le climat n'était pas aussi sévère que celui qu'auraient connu, par exemple, les chasseurs du Rennes contemporains au nord de la Méditerranée. Le troisième site représenterait la phase plus récente. Malheureusement, dans la présentation, les séquences qui correspondent au Bolin à l'Hérode, c'est-à-dire entre 15 000 à partir de 15 000 KBP, 15 000, 13 000, ne sont pas disponibles, elles vont être abordées dans la conclusion. Ce site-là, qui s'appelle Konumnata, a une date qui renvoie au Dryas récent, c'est-à-dire à la phase finale de cet Iberomaurusien à l'approche de l'Holocène. C'est un site qui a nécessité plus de 20 ans de fouilles à Cadenas, qui a mis du temps pour le comprendre, mais que Brahimi l'avait repris parce que Claude Brahimi était intéressé par la séquence ibéro-maurusien qui était pas à la plante de l'abri, mais bien à l'avant ici, voilà, et qu'il avait développé une stratigraphie, ça c'est la stratigraphie de ce cadenas, où il n'y a pas de superposition évidente entre l'ibéro-maurusien et les industries qui vont succéder, mais il avait dit qu'il avait trouvé l'Iberomousien, une industrie intermédiaire qui sera appelée par Columnatien, et le Capsien, de Faciès Tiaretien et le Néolithique, avec la présence d'une nécropole qui appartiendrait à toutes ces cultures. Le travail a été endossé par Luisa Oudia et il n'est pas évident de pouvoir séparer, même à ce moment-là, à ce stade-là, des rites, enfin, des phénomènes rituels séparés, capsiens, des phases ivermousiennes, à l'exception des inhumations évidentes, comme celles trouvées, je ne me rappelle plus l'individu, mais il y avait aussi comme des cas de figure où on a un enterrement avec des cornes de mouflon et une structure bien construite de pierre. Donc je n'aborderai pas, la, faute de temps, le devenir de l'ibéro-maurisien, mais pour schématiser, on a un ibéro-maurisien ancien, le devenir de l'ibéro-maurisien, c'est-à-dire ce qui aurait succédé dans ce site-là, c'est le columnatien, une industrie épipaléolithique après le capsien et le néolithique. Ailleurs, en Algérie orientale, on n'a pas de séquence néolithique et épipaléolithique à Tamahat. On n'a pas de séquences capsiennes dans des sites en abri avec stratigraphie. C'est le capsien, ce produit comment on est reconnu dans des sites de plein air avec ces fameux coquilles de coquilles terrestres. Mais on verra que Columnatin peut nous proposer un petit modèle d'adaptation vers des sociétés modernes. Sont pas encore néolithisés, mais qui sont tout à fait prédisposés pour se néolithiser. Alors, ce site-là, donc, on a encore, à la phase récente de l'ibéro-maurisien, une chasse orientée vers la chasse sélective d'un gibier, qui est en l'occurrence, parce qu'on est dans les hautes plaines, l'Alcelaf, Gelaphus. Avec toujours cette tendance à cet engouement vers le gibier de moyenne taille, mais curieusement, on n'a pas, enfin pas curieusement, naturellement, comme c'est un site de plein air intérieur, on n'a pas beaucoup de ressources halieutiques consommées, mais en remplacement à cet apport nutritif, on a l'exploitation des ressources d'eau douce à savoir les unions, qui sont très, très abondants dans ce site-là. Les traces de boucherie sont très, très évidentes dans ce site-là, et les modalités d'apport, enfin, le comportement de subsistance est pratiquement identique en termes de chasse de gibier sélectif, mais il y a des convergences et beaucoup de divergences entre la phase ancienne et la phase récente, par exemple en termes de fractionnement des ossements. L'industrie lithique est constituée du cortège habituel avec les instruments, les outils de fonds communs et les outils en activité de boucherie ou en activité synergétique. Mais on verra dans l'apport, dans l'étude technologique, il y a une variabilité diachronique mais aussi technofonctionnelle entre l'ibéro-maurisien et l'ibéro-maurisien ancien et récent. L'industrie osseuse est pratiquement, beaucoup plus de lissoir, moins de perçoir qu'avant. C'est-à-dire beaucoup plus d'outils conçus pour l'usage, le travail domestique, que le travail synergétique. Alors, comment s'est structuré, se sont structurés les systèmes techniques de ces ibéro-maurisiens tout au long de ces 10 000 ans? En contexte pléistocène, 10 000 ans, c'est énorme. Donc, est-ce que les hommes préhistoriques ont confectionné ce cortège d'outils de la même manière tout au long de ces 10 000 ans? Alors, le premier cas, bien sûr, il nous faut une méthode. C'est grâce à Jacques Tixier que moi, je me base sur la méthode technologique qui a été, découverte, puisque c'était l'élève de François Borde, et puisqu'il fouillait aussi dans les chantiers de fouilles de Leroy Gourhan, dans les chantiers de fouilles de Paris, et Bordeaux à Bordeaux, mais parce que les deux ont développé l'étude expérimentale, poussé Tixier aussi à faire de l'expérimentation, et là, c'est à Leroy Gourhan qu'il doit la notion de chaîne opératoire, que Leroy Gourhan lui-même tient de Mauss, l'anthropologue, en 1947. Et cette approche-là, qui considère que le concept de schéma opératoire doit se baser sur une approche intégrée qui prend en compte toutes les séquences, depuis l'approvisionnement de la matière première jusqu'à l'abandon de l'outil. Donc, si on intègre toutes ces étapes-là, on pourrait peut-être arriver à une notion beaucoup plus rapprochée de ce qu'étaient les Ibéro-Maurisiens, de ce que offrait, par exemple, de ce qu'offrait l'analyse typologique qui était utilisée par nos prédécesseurs. On doit aussi à Jacques Pellegrin de l'université, enfin de Nanterre, de l'UMR 7055, le développement, bien sûr, avec ses collègues danois, le développement de la lecture des stigmates qu'on peut voir sur les proximaux des lamelles et qui renvoient, bien sûr, à des informations très importantes au niveau des techniques, aux fractures d'impact qui donnent des notions, des informations sur la chasse et à l'expérimentation. Donc, si on transpose la quantité de matière première et la manière dont elle a été exploitée tout au long de ces 10 000 ans, on verra que les choses n'ont pas beaucoup changé, mais que l'apport de matière alloctones, c'est-à-dire qui sont de périmètre au-delà de 30 km, est un peu plus au mieux senti dans les phases anciennes de l'Ibéro-Maurisien. C'est des peuples chasseurs-cueilleurs qui sont, dans les abris correspondent à des habitats saisonniers, c'est-à-dire, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, que pour Tamarat, il a été fréquenté en hiver, et que Columnata a été fréquenté en été, et on voit des divergences au niveau de la manière dont ils ont exploité les matières premières, que vous voyez ici, divers types de matières premières provenant de différents gîtes. Mais quelle que soit la diversité, on a quand même un réseau de mobilité assez réduite, de mobilité logistique assez réduite, contrairement à celui connu, par exemple, aux chasseurs-cueilleurs du Bahutique supérieur qui parcouraient des distances un peu plus importantes. Et ça nous donne une idée d'un peuple inféodé à son territoire, puisque sur une séquence quand même de 5000 ans à Tamarhat, on voit les gens revenir saisonnièrement, exploiter de la même manière, chasser de la même manière, et ils ont une approche territoriale intelligente. C'est-à-dire que, comme Saxon l'avait déjà montré, il y a une approche avec l'animal, une approche tout à fait... Il avait évoqué à un moment donné la domestication. Mais bon, ça a été contredit à un travail que j'ai publié avec ma collègue Souina Merzouk, qu'on a des éléments de chasse et des témoignages de chasse et que le spectre faunique, les courbes de mortalité correspondent à des mortalités tout à fait similaires à celles qu'on voit en contexte chasseur-cueilleur paléolithique. Et donc, seulement à la différence de ces chasseurs-cueilleurs du paléolithique supérieur, ceux-là, ils ont quand même maîtrisé les courbes d'âge. Ils savaient à quel moment abattre l'animal, quel animal garder, les femelles les garder, les grands ou les jeunes, en tout cas. C'était vraiment très intelligent. Voilà. Les intentions, bien sûr, la production de supports lamellaires est ressentie dans toutes les séquences d'occupation des trois sites, c'est-à-dire tout au long de 10 000 ans, bien sûr, ils n'ont cherché qu'à produire, en plus de l'outillage domestique, un outillage à destination d'activités cynégétiques, mais, comme on le verra, pas de la même manière. La percussion, c'est-à-dire la technique de la taille utilisée, c'est la percussion tendre minérale. Et on a, bien sûr, du bois de serre, mais la ramure ne permet pas une exploitation assez ardue comme celle que permet le bois de renne. La ramure est plus importante par rapport au renne. Et l'analyse des microtraces et traces d'usure par ma collègue montre que ces objets-là auraient été utilisés comme pièces intermédiaires pour le travail de la matière osseuse et non pas comme percuteurs. Ce serait plutôt des percuteurs en grès triasique ou en d'autres matériaux que durant l'Ibéro-Maurisien de Tamarhat et de Rassel, les Ibéro-Maurisiens auraient exploité. Cette invention était connue au Proche-Orient, au Paléolithique J'ai enfin les travaux de Frédéric Abbas en Syrie. On a enfin une utilisation de la percussion tendre minérale, mais qui se serait développée à partir de l'épigravétien récent pour l'Europe et à la fin du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire 20 000 ans chez en Afrique du Nord. Cela pose des questions, je veux dire. On a la génétique, mais aussi, ce serait bien aussi de développer les études dans ce sens-là, parce que c'est une invention qui a permis de maîtriser les largeurs et la calibration des produits, des supports qui vont être débités. Et c'est intéressant de voir que cette technique-là s'est propagée sur le bassin méditerranéen à partir quand même d'un certain moment. La percussion tendre minérale a été aussi utilisée à Columnata durant l'Ibéro-Mauritien récent, mais avec une approche, avec des procédés opératoires tout à fait différents. Un procédé qu'on appelle, nous les spécialistes, en percussion rentrante, qui veut dire qu'on a quand même le tailleur préhistorique, pour obtenir des supports un peu épais. Il oriente son percuteur à un point un peu plus éloigné du bord du nucléus. En tout cas, c'est des procédés opératoires très importants qui montrent que il y a une recherche de support, plutôt il ne cherche pas après la calibration puisqu'il ne contrôle pas l'épaisseur, mais on verra pourquoi ils ont essayé de produire des supports épais. Durant le dernier maximum glaciaire avec les anciennes occupations de Tamarat, on a une technologie très avancée, je dirais, enfin pour moi, mon jargon. Ça c'est vraiment de l'exploit de pouvoir arriver à une exhaustion sur un nucléus pour produire des supports en pointe avec une préparation très poussée en crête arrière, comme vous voyez ici, très, 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 très avancée. Si on a ça à 23 000, 25 000 kbp, cela voudrait dire qu'on a une technologie lamellaire très maîtrisée et que si on n'a pas de foyer, je veux dire, de génome au nord de la Méditerranée, il faudra chercher justement une origine, soit levantine, soit justement avec les collègues en fait travaillant en Levant, on a quand même des cas similaires de maîtrise des convexités des nucléus pour produire les pointes. On a des schémas opératoires qui ne sont pas aussi élaborés, toujours dans la même séquence, faits sur des éclats qui vont être exploités pour produire de micro-lamelles, déjà. Voilà. Donc, il faut juste retenir qu'on a un débitage élaboré, qu'on a une production intégrée avec des produits indifférenciés. Que veut dire ce jargon ? C'est que tous ces produits, il va les récupérer. Ce qui était déjà nucléus va être utilisé, le produit qui va être tiré du nucléus va être utilisé comme futur nucléus pour produire des supports. On a un débitage expédient dans les phases correspondant aux occupations 5, 4, 3, 2 et 1, aux occupations supérieures, où il y a une recherche de supports allongés, ils ne sont pas des supports en crête, avec l'apparition de nouvelles modalités pour obtenir une production d'appoint. Dans cet Ibéro-Mauritien récent, on retrouve dans le site de Racel un retour à cette systématique de production intelligente et qui exploite au maximum le volume du nucléus avec des mises en forme très sophistiquées. Et ceci n'est pas sans lien avec le retour à des exigences par rapport aux variations climatiques, puisqu'on passe maintenant, après la phase de l'interstadiaire, à une phase stadiaire. Et à la fin, Columnata représente un exemple où il y a, comment dire, non seulement une production classique de lamelles, mais aussi la présence de supports, la présence de modalités d'obtention de ces armatures qu'on verra plus tard à partir de nucléus à lame et d'autres à partir de nucléus à éclat. Il y a plusieurs chaînes opératoires qui ont pour but de produire des produits lamellaires. Alors qu'avant, à l'Ibéro-Mauritien ancien, on avait un investissement dans la production des armatures et un souci d'obtenir des lamelles de la même taille pour des besoins, comme on le verra tout à l'heure dans l'analyse fonctionnelle, On a donc des productions assez diversifiées de supports lamellaires et qui sont sur le point de vue métrique tout à fait différentes. Celles des phases se rapprochant du dernier maximum glaciaire, il y a un rapprochement, une maîtrise du calibre des largeurs, et il est très apparent que l'entrée historique recherchait à produire systématiquement des lamelles de même calibre, qu'il retouchait par la suite pour être emmanchées comme des armatures de jet. Et comme ce sont des éléments interchangeables, donc il a pris son temps à bien, il respectait les procédés opératoires pour obtenir toujours le même gabarit en termes de largeur et en termes d'épaisseur. Contrairement à l'ibéro-maurisien ancien, l'ibéro-maurisien récent, on voit l'apparition, là en termes de longueur, largeur, épaisseur, c'est les armatures de columnata qui sont les plus épaisses et les plus larges. Et ceci, excusez-moi, explique l'importance de la lamelle, de la retouche, abrupte et croisée. C'est-à-dire, à un moment donné, il se souciait peu de la perfection du mode de dépitage. Il obtenait ses armatures à partir de lame, de nucléus à lame ou de nucléus à éclat, et puis il réduisait la largeur en appliquant la retouche abrupte. Donc, cette perte de souci de calibration, pourquoi est-elle ressentie dans l'ibéro-maurisien récent? Eh bien, les trois sites ont connu des témoins d'activités synergétiques. Les traces d'impact sont très parlantes, surtout celles burinantes. On a les fragments mésiaux et proximaux et distaux, on les a, et donc on a des activités aussi, ceci est corroboré par les résultats de l'analyse archéozoologique. Mais le problème qui se pose, c'est quel type de manche correspond à tel type d'armature. Mais on peut imaginer que les armatures, on a des critères qui sont en faveur d'un emmanchement en tête de hampe pour les supports lamellaires robustes de columnata, de l'ibéro-maurisien récent, et celles qui sont montées en série pour l'ibéro-maurisien ancien. Bon, voilà. Est-ce que cette variabilité correspond à une variabilité écologique, puisqu'on a des sites qui sont côtiers dans un milieu de paysage mixte qui aurait exigé l'invention d'un type d'armature spécifique à chaque milieu des hautes plaines, et parce qu'on a un milieu découvert ici, un milieu arboré là, ou est-ce que ça a un rapport avec les variations paléoclimatiques, où l'on voit qu'il y a des correspondances et des adaptations des comportements par rapport aux variations paléoclimatiques. C'est-à-dire que ce souci qu'on voit disparaître dans l'ibéro-maurisien récent, de produire des éléments standardisés, correspond à l'apparition d'autres activités. Effectivement, ces activités-là, avec l'amélioration climatique bonine à l'Hérode, et aussi à Columnata, puisqu'on a une nécropole qui abriterait des sépultures humaines, avec des rites pratiquement semblables à ceux connus ailleurs, dans l'ibéro-maurisien récent. On a aussi la prolifération de la technologie céramique et aussi l'art. Je résumerai pour dire que la technologie a un apport. Je conclurai par dire que la technologie est indispensable pour pouvoir étayer, confirmer ou infirmer certaines hypothèses. Mais non seulement, elle n'a pas seulement ce rôle-là, mais elle devrait être associée aux autres disciplines telles que la génétique, l'archéozoologie. Et je vous remercie pour votre attention.